moyens pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
On fasciste, la gangrène, on est l'ennemi, pour la gangrène.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, nous espérons, n'est-ce pas Laurent, que tout le monde va bien?
Effectivement.
Nous sommes le jeudi 29 septembre 2022, dernier jeudi de ce mois de septembre, qui se termine donc avec une journée de grève, de rentrée, donc, puisque vous savez que la rentrée, hein, c'est pas janvier, c'est septembre, hein. Nous suivons la normalité, la norme scolaire. Donc une première journée pour les salaires et pour sauver notre retraite, parce que bon, si on a bien compris, selon votre âge, vous n'êtes pas prêt d'avoir une retraite. Selon votre âge, vous allez partir très tard, et selon votre âge, vous êtes déjà à la retraite et vous dites ouf, oulala, ouf, je m'en sors bien, hein, n'est-ce pas?
Sauf si vous vous mobilisez lors des prochains rendez-vous, parce que celui-là, il sert à rien. Hein, c'est un rendez-vous d'une journée, ça fait pas pression pour le gouvernement. Ça, je pense que la CGT va compter ses troupes, surtout. Et les grèves d'un jour, on sait très bien que c'est juste symbolique, mais qu'à un moment, pour la réforme contre la réforme des retraites, il y aura peut-être besoin d'une mobilisation un peu plus reconductible, quoi, histoire de mettre la pression, puisque là, malheureusement, ça ne met pas la pression.
La difficulté dans notre société actuelle, c'est d'arriver à faire prendre conscience à tout un chacun et chacune quelle est la problématique sur ces retraites. Parce que là, on a beaucoup aussi entendu des CGTistes nous parler des salaires. Certes, il faut une revalorisation des salaires parce qu'il y a l'inflation et parce qu'il nous faut un pouvoir d'achat. Sauf que finalement, ce pouvoir d'achat, on se noie un peu dedans à chaque fois. Donc oui, on veut des salaires, mais parce que surtout, on veut une meilleure répartition des richesses. Ça reste le cœur du problème, la répartition des richesses.
Voilà, et notamment, pas taxer les super profits, mais taxer les profits tout court pour qu'il y ait une répartition des richesses. Voilà, il faut pas cibler, il faut cibler tous ceux qui gagnent de l'argent, pas seulement les super riches en fait.
Et puis peut-être aussi envisager une autre société, hein, peut-être passer aussi dans des coopératives, c'est-à-dire que on soit plus simplement ouvrier ouvrière, mais patron patronne ouvrier ouvrière comme on dit, c'est-à-dire associé en fait de nos affaires. Mais quand je dis ça, ça veut pas dire devenir associé libéral, hein, d'entreprise commerciale classique, où là d'un seul coup on devient un travailleur indépendant. Et puis finalement, on pense tout de suite que le système de retraite, c'est pas le nôtre, c'est pas pareil que pour les salariés et les fonctionnaires. Et donc finalement, on s'en fiche un peu, parce qu'en plus, pour un certain nombre de ces travailleurs et travailleuses non salariés, il y a l'idée que de toute façon, on va travailler longtemps parce qu'il faut faire de l'argent et puis que c'est bien en même temps le travail. Donc il faut se battre aussi contre cette valeur du travail. Il y a eu beaucoup de discours ces derniers temps, vous savez, ce droit à la paresse que les gens ont fait semblant de pas comprendre lorsque Madame Rousseau sort ce genre de choses. La valeur du travail aussi, hein, défendue selon si on se place du côté du patron du Parti communiste ou du côté des anarchistes.
Ouais, pour le coup, le patron et le Parti communiste ont l'impression que c'est pareil, hein. En termes de représentation. Ah,
c'est pour ça que je parle de patron du Parti communiste.
Hein. Et du travail.
J'emploie pas ce terme de patron pour rien. C'est voilà. Mais c'est vrai que on a besoin d'un changement de société et non pas juste effectivement de se battre pour notre pouvoir d'achat. Et c'est bien là toute la difficulté. Et c'est peut-être que le plus important, il est de continuer à faire de la propagande sur ces questions autour de nous. tous et toutes, parce que tant qu'on laisse dans nos familles où il y a toujours tonton et tata de droite, voire d'extrême droite, qui vient nous dire que quoi, c'est normal de travailler et puis de partir à 70 ans, ben on s'en sortira pas. Donc il faut faire face, et je trouve que c'est bien plus compliqué de faire face dans ces types de discours, et peut-être aussi parfois à table avec nos collègues, voire nos patrons, que finalement d'aller en manifestation...
voir les copains.
Ouais, où on est un peu entre nous. Et en, voilà. Ouais. Mais voilà, c'est bien un changement de société qu'une partie d'entre nous, on veut. Hein, c'est, voilà, c'est pas juste quelques morceaux d'argent. On veut autre chose, on veut vivre mieux parce qu'on aura eu un changement de cette société d'une manière plus globale, et le capitalisme, c'est comme ça. Hein. On dit, avant on disait le capitalisme, il faut le détruire.
Bah, on le dit toujours.
Hein. On dit toujours que le capitalisme, il faut le détruire, on en est toujours là. Alors ce soir, on va vous parler de plein de choses, et pas forcément des retraites. Si vous avez bientôt proche de la cinquantaine, vous savez qu'à partir d'un certain âge, vous pouvez aller ouvrir et avoir un accès sur vos droits à la retraite.
Non, mais
on va vous répondre.
Faites-le pas.
Alors moi je l'ai fait, je l'ai déjà raconté sur cette antenne.
Et après on déprime.
Faites-le, parce que si vous avez en plus moins de 50 ans, vous aurez accès à rien, parce que vous, on vous demande pas encore de compiler vos trimestres, vos années, vos points et tout ça, vos heures, hein, parce que bientôt on parlera peut-être en minutes pour calculer nos retraites, je sais pas. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de l'âge de la retraite à laquelle vous pourriez partir avec le système actuel. Donc ça, comme ça fait un peu pleurer, ça peut mobiliser à en discuter, ouais. En tout cas déjà avec vos patron pour leur expliquer que bah, je sais pas, de toute façon peut-être que vous allez pas partir à taux plein parce que vous allez pas mourir au travail avec la moitié du pied dans la tombe. Vous voyez, enfin je bon voilà, ça fait un petit peu réfléchir. Alors donc du coup ce soir on va parler du droit des femmes. Parce qu'il paraît qu'elles en ont, les femmes, des droits.
Enfin, en tout cas, il y en a qui essayent de se battre pour.
Hein, et puis elles se battent dur en ce moment. On ira du côté de l'Ukraine et de la Russie, puisque la guerre n'est toujours pas finie, malheureusement. Pas dire que ça ralentisse non plus tellement. On ira parler de racisme, on ira au Qatar, et puis on ira du côté de la Birmanie. On parlera avec Laurent de technologie et de contrôle des populations. Et puis on parlera un petit peu de lutte de classe, parce que quand même ces journées d'une manière un peu détournée, hein, vous verrez, mais enfin voilà, quand même il faut en parler. Et puis on parlera d'une stupidité du gouvernement qui va nous arriver bientôt.
Alors on va revenir sur les mouvements liés à ce qui s'est passé en Iran pour ces femmes qui se rebellent contre le patriarcat religieux en place dans ce pays, mais vous avez peut-être vu, et en fait il y a des nouvelles infos, et c'est depuis, on va dire, 2-3 jours que l'armée iranienne a changé un petit peu de comportement, jusqu'à maintenant l'armée n'intervenait pas, c'était plutôt les forces de répression internes au pays. Là l'armée intervient pour combattre le droit des femmes, bien évidemment, et donc cette armée est allée bombarder, mais alors qui est allée bombarder, qui c'est les méchants qu'il faut bombarder? C'est les Kurdes. Ah bah ouais, parce que les Kurdes, hein, ce sont toujours les méchants. Donc ils sont allés, l'armée iranienne est donc allée bombarder le Kurdistan irakien, puisque le gouvernement religieux de l'Iran accuse ces Kurdes d'être à l'origine des protestations qui agitent la dictature islamique en place dans le pays. Alors, donc ils ont tapé sur les Kurdes de Syrie et sur les Kurdes d'Irak. Alors on rappelle, hein, ça fait à peu près 15 jours hein, qu'il y a des manifestations suite à la mort de Mahsa Amini, hein, qui, c'était le 16 septembre très exactement, qui a été donc tué par la police, la police et les fameuses brigades religieuses, hein, dont les gardiens de la révolution, c'est le chef. Là on a les forces de police, de moralité, vous appelez ça comme vous voulez, on n'est pas obligé de reprendre le terme officiel des dictateurs religieux. Donc voilà, c'est ça qu'elle a lancé. Et elle était kurde, en fait, cette jeune femme de 22 ans. Elle portait, parce qu'on l'oblige à porter un voile sur ses cheveux, mais elle l'avait mal mis, et tout est parti de ce truc-là. Et donc les fameux gardiens de la révolution, l'armée idéologique hein, et religieuse du régime iranien, ils se sont dit, il faut qu'on reprenne la main. Alors, ils répriment énormément les manifestations. Et là, donc, ils sont lancés dans des bombardements pour attaquer les Kurdes, et notamment dans le nord de l'Irak. Donc, ils ont bombardé, c'était hier mercredi, les quartiers généraux du Parti démocratique du Kurdistan. Ils ont bombardé les locaux du Parti de la liberté du Kurdistan. Ils ont attaqué un petit peu tout ce qu'ils pouvaient viser avec des frappes à partir d'avions et de drones. Tout ça pour, au final, tuer au moins 13 personnes, faire au moins 58 blessés, dont des civils. Mais c'est la solution qu'ont trouvé ces religieux pour continuer d'essayer de dominer hommes et femmes, mais surtout les femmes, parce que quand même, elles sont inférieures d'après leur discours, bien évidemment. Donc, alors, on le savait, hein, que c'était prévisible et qu'on s'y attendait. C'est Abbas Nilforushan, qui est donc le commandant adjoint des opérations des gardiens de la révolution iranienne, qui avait dit que, je cite, les Kurdes iraniens, les Kurdes, grosso modo tous les Kurdes, mais les partis kurdes iraniens d'opposition qui étaient visés en premier, même s'ils sont dans le nord de l'Irak, ont joué un rôle primordial dans les émeutes de ces derniers jours. Nous n'accepterons aucune menace venant de notre voisinage. Le bombardement de positions et de bases contre-révolutionnaires dans le nord irakien est la mise en œuvre de cette approche stratégique. Voilà, bon, ils assument hein, ces bombardements. Mais la contestation s'est répandue, elle change un petit peu de forme avec des nouveaux slogans notamment. Pas mal de personnes en parlent autour, dans les pays autour de l'Iran, ce qui peut faire bouger les choses, même si on n'a pas beaucoup d'espoir que cette dictature religieuse disparaisse et redonne de la liberté aux hommes et aux femmes, et surtout aux femmes qui en ont beaucoup moins que les hommes. Donc voilà où on en est aujourd'hui avec cette nouvelle phase de bombardement. Il y a eu des manifestations, hein, on va en reparler, mais en Afghanistan, il y a eu des manifestations en Irak, hein, du coup. On se rappelle le 25 septembre, donc il y a quelques jours à Asaké. Il y a eu à Kamishili aussi des manifestations, donc on parle de la Syrie ou de l'Irak. Donc voilà, les femmes en soutien à aux femmes iraniennes qui essayent de s'affranchir du patriarcat religieux, elles montrent leur soutien. Et pourtant, manifester à Kaboul, c'est quand même pas facile. Hein. Puisqu'aujourd'hui, à nouveau, des femmes, alors elles n'étaient pas très nombreuses, elles étaient 25, mais 25 femmes ultra courageuses sont allées manifester devant l'ambassade d'Iran à Kaboul, donc en Afghanistan, avec ce slogan-là, qui est le nouveau slogan hein, qui est repris dans les manifs de la région, « Femme, vie, liberté ». Trois mots qui résument un petit peu tout, et qui résument qui sont à l'antithèse du régime religieux, bien évidemment, mis en place en Iran, et on ne va pas se leurrer non plus dans les autres pays autour, c'est pas beaucoup plus glorieux. Sur le droit des femmes, en tout cas, puisque c'est le sujet. Donc voilà, donc elles sont allées manifester devant cette ambassade d'Iran à Kaboul, et bien évidemment, les religieux talibans sont arrivés et les ont fait partir manu militari. Il n'y a pas eu de mort et de blessé a priori, mais ils ont tiré en l'air pour faire peur à tout le monde. Ils ont arraché les banderoles, parce qu'il y avait des banderoles. Ils ont tapé, mais bien sûr, on tape sur les femmes quand on est taliban, hein, bien évidemment, et sur les manifestantes, bien évidemment, parce que elles portent un autre discours que le discours religieux. Donc voilà, elles avaient essayé de se dissimuler hein, quand même. Donc elles avaient gardé leur voile, qui peut être un outil de dissimulation là dans ce cadre-là. Elles avaient un masque contre le Covid, et certaines avaient même des lunettes de soleil pour pas se faire repérer par les religieux talibans. Donc voilà, elles sont quand même ultra courageuses. Les talibans s'en sont pris aussi à quelques journalistes qui étaient là en leur demandant d'effacer, parce que pas de témoignages, bien évidemment, en Afghanistan comme ailleurs dans ces pays où c'est la religion qui domine. Eh ben, il ne se passe rien, les femmes ne disent rien, et les hommes non plus d'ailleurs, puisque on rappelle que dans les manifs, les manifs sont relativement mixtes, hein, puisque il y a des hommes en soutien à ces femmes qui se rebellent contre le pouvoir religieux. Donc voilà, c'était l'info du jour, hein, ce bombardement et ces manifestations réprimées, notamment à Kaboul.
Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe du côté de l'Ukraine et de la Russie, en particulier de la Russie, hein, parce que c'est aussi le cœur du problème, hein, quand même, il faut se le rappeler. Alors, vous avez bien compris que donc la Russie a décidé d'annexer des territoires ukrainiens. Alors, pour partie qu'elle occupait depuis plusieurs années, pour partie qu'elle vient d'occuper avec cette guerre en Ukraine, on a donc un peu des scores à la nord-coréenne quand même, il faut le dire.
Voilà, soviétique, comme avant.
Comme avant, exactement. Où tout un chacun et chacune serait donc allé voter le cœur sur la main, et puis l'autre main comme un geste militaire de salut, et tout ça au pas de loi, pour dire oui, on veut bien être annexé par la Russie, notre grande patrie à nous. Alors du côté quand même d'un certain nombre d'observateurs, on doute un petit peu de cette bonne foi faut le dire quand même. Bon, faut dire qu'un certain nombre d'habitants ukrainiens et d'ukrainiennes sont partis, donc il resterait beaucoup de soldats russes pour aller voter.
Ouais. Et puis ceux qui sont pas partis, ils sont peut-être morts aussi.
Voilà. Et puis bon, voilà. Donc il y a pas d'observation hein, si. Sur ce qui s'est passé.
Alors il y a des traîtres.
Oui.
On peut parler de l'Afrique du Sud. Oui. Ça fait scandale. C'est l'ANC, donc oui. Le parti qui a accusé le parti historique hein, de sortie de l'apartheid, qui a été abîmé hein, en interne par la corruption, par plein d'affaires. Et les jeunes de ce parti-là, certains jeunes sont allés là-bas pour témoigner. Donc, en signe de coopération abjecte avec un occupant. Et là, personne ne comprend. Et je crois que même en Afrique du Sud, ça commence à faire parler. Et l'ANC prend une claque une fois de plus, alors que c'était quand même un parti qui avait un rôle important dans cette Afrique du Sud. Donc, il y a quand même juste ces traîtres.
Oui, mais sinon, voilà, effectivement, on n'a pas de retour indépendant, objectif, sur ce qui s'est passé au niveau de ces bureaux de vote. Donc, bah déjà, ça pose un petit peu des questions, ce qui fait que il y a évidemment des réactions internationales. Donc, l'Union européenne a proposé de durcir les restrictions dans les échanges commerciaux en plafonnant le prix du pétrole russe, ce qui évidemment serait embêtant parce que... Plus il est cher le pétrole, mieux c'est pour la Russie. Donc ça pourrait poser un problème. Du côté des États-Unis, on a expliqué que les États-Unis ne vont jamais reconnaître les résultats de ce scrutin. Hein, c'est...
Je crois que personne ne va reconnaître.
Voilà. Le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne se sont déjà extrêmement positionnés sur cette question. Mais du côté de la Russie, on dit que tout est propre et qu'il n'y a aucun problème et que c'est un déni de démocratie d'accuser les Russes d'avoir falsifié les résultats de ce vote. Du côté des États-Unis, on a donc de M. Biden, on annonce débloquer plus d'un milliard de dollars d'aides supplémentaires militaires pour l'Ukraine. Alors ça va être des commandes d'armement hein, à l'industrie de défense américaine, donc c'est pas rien quand même, c'est beaucoup d'argent. Il y a toujours ce soutien hein, qui arrive et qui est aussi critiqué, on va y revenir un peu plus tard. Et il y a donc parallèlement à ça cette annonce de cette mobilisation dite partielle pour l'instant d'un certain nombre de non volontaires et de volontaires russes pour aller se battre en Ukraine. Alors on a vu un certain nombre de reportages ces derniers temps extrêmement intéressants qui sont allés aux confins de cette Russie parce qu'il faut savoir quitter Moscou hein, pour ces journalistes, c'est compliqué d'ailleurs parce que du côté de Monsieur Poutine on serre la vis hein, sur les journalistes étrangers, alors sur les journalistes russes c'est pas nouveau, mais aussi sur les journalistes étrangers qui ont des difficultés à se rendre dans certaines régions, des régions qui sont plus proches de la Chine ou de la Mongolie et sur lesquels il y a des jeunes qui sont embarqués et des moins jeunes qui sont embarqués pour aller faire la guerre en Ukraine, à qui on n'explique pas vraiment ce qui se passe et pourquoi il faut y aller, mais comme le taux de chômage est important, l'armée c'est un petit peu un Eldorado hein, finalement, ça a l'air d'être fort le mot Eldorado, mais c'est un peu un instinct de survie aussi, donc les hommes y vont, il y a des décès. Moi c'est des chiffres qui m'ont particulièrement choqué parce qu'on parle pas trop de ces décès russes. Au début on nous parlait de 15 000 morts, je trouvais que c'était beaucoup quand même, puisqu'on n'arrête pas de nous dire du côté des Russes qu'ils sont vachement plus forts avec l'Ukraine, du côté des Ukrainiens ils sont nuls. On parlerait maintenant de 30 000 à 50 000 soldats russes décédés dans le cadre de cette guerre hein, qui a débuté il y a quelques mois. Donc c'est des chiffres qui sont quand même impressionnants. Et dans certaines régions, on a fait appel à des soldats, comme je vous le disais, sur l'est de cette Russie. Il commence à y avoir dans certaines petites villes un certain nombre de soldats qui ne reviennent pas. Et donc ça commencerait peut-être aussi à interroger, et en particulier, comme toujours dans les guerres, ce sont les mères, ouais, les sœurs, les femmes qui commencent à se plaindre et à vouloir aussi un petit peu se rebeller sur ces questions. On a pu voir dans des reportages, en particulier sur les reportages de France 2, où des femmes ont causé à visage découvert, ce qui est très courageux, ce qui est quand même aussi se mettre en danger, puisque les journalistes n'avaient pas le droit de les filmer, n'avaient pas le droit d'être là. Et donc ces femmes critiquent aujourd'hui le gouvernement de Poutine et donc cette guerre en Ukraine, dans des villes où on sait que s'il leur arrive un truc, personne ne sera au courant. Il faut bien être conscient.
Dans l'histoire de la Russie et avant de l'Union soviétique, hein, les mères comme ça ont souvent porté le flambeau de la lutte. Elles semblent beaucoup plus courageuses que tout le monde dans cette société russe pour aller à l'encontre des pouvoirs autoritaires, hein, qu'ils soient soviétiques ou maintenant poutiniens. Donc elles portent ça. Elles perdent des membres de leur famille et elles ne l'acceptent pas. Elles ont vraiment un courage assez incroyable. Hein, une partie de ces mères, hein, parce que c'est bien évidemment pas toutes.
Donc on a cet exode. C'est un vrai exode hein, de ces hommes qui quittent la Russie pour échapper à cette mobilisation possible. Certains seront en Mongolie, toute proche, d'autres en Géorgie, qui depuis le début a soutenu les Ukrainiens, ouvre ses portes, mais se rendent compte que d'un seul coup, elle est dépassée par l'arrivée de ces Russes et que ça pourrait aussi un petit peu arriver à du conflit interne avec les russophones, puisque je rappelle que la Géorgie a aussi un territoire qui est occupé aujourd'hui par la Russie. Et puis il y a le Kazakhstan, tout proche aussi de cette Russie, qui a déjà dit qu'elle refuserait d'expulser les jeunes Russes qui arrivaient sur son territoire pour échapper à cette mobilisation. Donc le Kazakhstan s'engage quand même contre cette Russie. Le voisin qu'on n'aime pas trop finalement au Kazakhstan, parce qu'on a un peu peur finalement de ce voisin très envahissant. Du côté des autorités russes, on explique qu'il n'y aurait plus de passeport pour les hommes finalement, qui pourraient être mobilisés. C'est une manière de retenir cette population. Et on a donc appris lundi, ce qu'on savait déjà, par un communiqué tout à fait officiel, qui était le patron de ces groupes Wagner. Vous savez, ces mercenaires qui sont de partout, en Crimée, depuis 2014, en Afrique, mais aussi dans cette Ukraine occupée aujourd'hui par la Russie. Il s'agit d'Evgeny Prigojin, qui on appelle le cuisinier de Poutine. Si on l'appelle le cuisinier de Poutine, c'est parce qu'en fait, il est restaurateur. Alors, c'est pas dire qu'il est au popote, mais c'est-à-dire qu'il détient une société de restauration. C'est par un restaurant de luxe qu'il a fait connaissance de monsieur Poutine, avec qui il a eu des liens d'affection, a priori. Et c'est avec Poutine qu'il est rentré donc dans cette proximité des autorités, qu'il a été faire la popote justement pour Poutine, donc de ce service d'État. Mais ce qui est important dans cette déclaration de lundi, dans ce communiqué, c'est que ce monsieur, il n'avait jamais, il était resté dans l'ombre. Donc là, on a une déclaration d'ouverture, de c'est moi le chef. Je vous le dis, et c'est officiel. Alors que, bon, a priori, tout le monde était un petit peu au courant, en tout cas dans les sphères autorisées et dans les sphères même journalistiques. Donc, ça semble aussi montrer qu'il y a quand même une... Enfin, on l'espère, en tout cas. Peut-être qu'on prend, en fait, nos envies pour des réalités qui n'existent pas. Mais que, du coup, il faut aller chercher des mercenaires et que, du coup, en s'affichant publiquement comme étant un chef représentant des mercenaires, il pourrait peut-être recruter plus facilement et envoyer à la place de ces déserteurs qui se barrent en Géorgie et puis dans tout d'autres pays, remplacer donc ces soldats qui ne veulent pas aller faire la guerre en Ukraine par des mercenaires payés, selon les trébuchants, donc par la société Wagner. Et puis peut-être aussi que ça fait ressortir ce patriotisme d'extrême droite extrêmement présent en Russie, en montrant qu'il y a un homme là, nationaliste, d'extrême droite, qui vous incite à aller faire la guerre, parce que si lui il le dit, c'est que ça doit être peut-être très très bien. Alors, contre les aussi préoccupations, donc, et les sanctions qui pourraient être apportées contre la Russie, on a appris que le gouvernement turc mettait fin au système russe de paiement Mir. On en avait beaucoup parlé au début, parce que c'est un système qui est beaucoup utilisé par les touristes russes à l'étranger, mais aussi par les chefs d'entreprise russes qui se déplacent à l'étranger. Et là, sous la pression des États-Unis et l'Amérique, donc on a la Turquie qui arrête ce système Mir, ce qui met tout le monde un petit peu évidemment dans l'embarras du côté de la Russie, parce que c'est un système bien pratique, d'autant plus en Turquie où aussi des Russes sont allés s'installer, qui fuient le système de Poutine aujourd'hui. Mais on sait aussi que d'autres entrepreneurs s'étaient installés là-bas pour essayer de dévier un petit peu et d'occulter un peu ces restrictions sur l'économie russe.
Ils ont aussi beaucoup de touristes russes, puisqu'ils ne peuvent pas aller partout et la Turquie les accueille à bras ouverts.
Donc là, M. Erdogan a dû lâcher l'affaire, de peur très certainement de se retrouver, vous savez, dans ce qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est-à-dire que vous êtes complice finalement de quelque chose et vous avez laissé faire. Donc M. Erdogan a fait un petit peu carrément la marche arrière sur cette question. On en avait déjà l'Ouzbékistan qui avait aussi mis fin à ce système Mir, donc ce système russe. Et puis on a appris que la Pologne prend peur et a décidé d'augmenter son pognon pour ses effectifs militaires et pour ses achats d'armes. Donc en 2023, on va passer à plus de 20 milliards d'euros de dépenses pour l'armée. Alors il va y avoir évidemment des achats d'armes, mais l'idée c'est aussi de faire passer le nombre de militaires de 140 000 à 300 000 personnes mobilisables dans le pays. C'est pas rien quand même, c'est plus du double à développer d'ici 2023. Mais la Pologne se sent en danger a priori avec cette guerre en Ukraine par la Russie, mais profite peut-être aussi le penser aussi de ce système aussi pour s'armer davantage. Vous avez tous aussi entendu qu'il y a donc des petits problèmes de gazoduc. Est-ce un sabotage? n'est-ce pas, un sabotage? On se demande. Il y a aussi la question, évidemment, hein, il y a cette question politique. Qui a saboté? La Russie dit que c'est les autres. Et les autres disent que c'est la Russie. Ouais. Voilà. En tout cas, toujours est-il qu'il y aurait des milliers de tonnes de méthane, même si Nord Stream 1 et 2 ne sont pas en activité, il y a eu quand même des essais. Et donc, il y a du gaz là-dedans. Et il y a une forte inquiétude au niveau écolo de savoir ce qui va se passer. Ça discute un petit peu quand même, hein, dans les sphères techniques pour savoir si ce truc bouillonnant peut être un danger, hein, pour quand même... un petit peu les océans, on ne sait pas. En tout cas, la Pologne, elle, de son côté, on y revient, a inauguré mardi un nouveau pipeline qui va acheminer le gaz de Norvège par le Danemark et la mer Baltique. L'idée, c'est de ne plus dépendre du gaz russe. Là, ça va être 10 milliards de mètres cubes de gaz qui vont être amenés chaque année en Pologne. C'est la moitié des besoins du pays. Donc c'est intéressant évidemment pour la Pologne. Et puis je vais terminer avec un dernier point sur cette Russie-Ukraine et sur la Pologne. C'est Roger Waters qui a quelques soucis.
Ouais. Ouais. On n'a pas dit qu'il était toujours intelligent.
Non, mais nous sommes tous et toutes pas toujours intelligents et intelligentes. Il faut se le rappeler. Mais ça fait pas de mal de critiquer même des personnes qu'on a pu apprécier par des positions politiques par le passé. En tout cas, Roger Waters, donc vous savez qui c'est, hein ? Je vous le fais pas
c'est
dire.
C'est le
quand
bassiste
même.
Chanteur de Pink Floyd.
Merci. Donc, il devait y avoir des concerts. J'utilise, vous voyez, un espèce de passé prévu en avril 2023 à Cracovie. Mais Roger Waters, il a causé. Comme d'habitude, il a des idées politiques, il les exprime.
Il est plutôt pro-russe.
Ah, c'est pas tant qu'il est pro-russe.
Ouais, quand même un peu. Hein.
C'est un peu plus compliqué que ça.
Enfin, il est anti-OTAN. Donc, alors, du coup, il dit plein de conneries à cause
alors,
c'est de ça.
Alors, il s'en est pris déjà à M. Zelensky, hein, le président ukrainien, ouais. Qui traite de nationaliste. Bon, s'il veut.
Ouais. Il mais faut du coup, chez nous, hein, parce que les nationalistes, on a tout autour du bras à comparer Zelensky, il est gentil. Hein.
Et puis du coup, on pourrait s'en prendre à M. Poutine sur cette question-là, ça serait aussi intéressant. Il dit qu'en fait, il faut arrêter cette guerre parce qu'il faut avoir une solution de paix. Donc globalement, la solution de paix aujourd'hui, c'est quand même que l'Ukraine fasse une croix sur ses territoires
c'est
et accepte
propose,
une occupation russe. Hein, je vais dire, donc évidemment, ça a fait un petit peu jaser, hein, ça provoque quelques débats et polémiques. Et du coup, du côté de Cracovie, on a décidé qu'on ne voulait plus de M. Roger Waters en avril 2020. La seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est que Live Nation Pologne, qui donc sort, hein, organise ses concerts. Live Nation, qui est quand même aujourd'hui, à travers le monde, une multinationale du concert.
Oui, c'est ça. C'est
hein, donc quand Live Nation fait un truc, tout le monde le sait. Quand ils le font plus, tout le monde le sait aussi. Donc tout ce qu'on sait, c'est que Live Nation a fait un petit tweet, hein, gazouillé, pour expliquer que les concerts d'avril 2023 à Cracovie étaient annulés.
C'est officiel.
On n'en sait pas plus. Alors, du côté de Roger Waters, on dément. Lui, il dit que bah, non, il n'a pas renoncé à Cracovie. Il va y aller à la nage, en pédalo et en vélo ensuite. Et que, bah, on ne sait pas bien, mais que, en fait, lui, il œuvre pour la paix et que c'est ça qu'il faut retenir de son message. Simplement, son message, je crois qu'il était peut-être mal écrit alors.
Ouais. Il a fait des choses bien plus intéressantes en termes de message, M. Waters.
Ouais, tout à fait.
Voilà, vous réécoutez Animals, vous avez un peu des choses sur la dictature.
Non, non, mais
la dictature,
c'est
et c'était quand même plus fin et plus intelligent,
c'est,
Monsieur
c'est
Waters.
C'est pour ça que je l'interpelle pas, c'est que Roger Waters, si je pense.
Non mais c'est pas la première fois qu'il prend des positions pourries. C'est, voilà.
Voilà, il faut le dire. On aime beaucoup la Pink Floyd, mais voilà, il faut savoir critiquer de temps en temps quand même.
On va parler racisme un petit peu et je commence avec la grosse embrouille à l'ONU avec le Qatar. Puisque nous avons End Al Mufta, donc qui était l'ambassadrice du Qatar, qui a été obligée. Alors aujourd'hui, elle a supprimé son compte Twitter, mais il faut remonter toute l'histoire. En fait, elle a été virée, hein, de son poste à la présidence du Forum des Nations Unies sur les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Bon, déjà que le Qatar, il est droit de postuler à un truc où il y a démocratie et état de droit, alors que c'est une dictature, c'est limite. Mais ça, l'ONU, il y a toujours, hein, ces compromis, limites, compromissions. Mais bon, ça fait partie du jeu. Si on accepte d'être à l'ONU, on accepte ça aussi. Hein. Bon, tant pis. C'est triste, mais tant pis. Mais bon, elle a fait. Donc, elle avait été virée. Elle a été remplacée par Patricia Hermans. Ça avait été annoncé il y a quelques jours, hein, voire quelques semaines. Il y a deux semaines, très exactement. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben voilà, elle est croyante et elle a porté son discours porté par sa religion, qui a un texte écrit il y a 1500 ans, qui est pas toujours très fin. Et donc, elle a repris les trucs. Elle est officiellement antisémite et homophobe. Donc elle a dit, hein, les juifs sont des ennemis d'État et elle appelle à la malédiction de Dieu contre les homosexuels. Voilà. Des trucs qui sont dans son texte religieux, mais c'est... on a le droit d'être plus intelligent que son texte religieux. Elle l'a pas fait. Elle a cherché à être aussi con. Et donc, du coup, voilà, elle s'est fait virer pour ça, et ce qui était bien mérité. En fait, il y a une ONG qui a sorti le truc, hein, qui s'appelle UN Watch. Donc c'est une ONG qui scrute ce qui se passe à l'ONU, d'où le UN, United Nations, qui scrute un peu les dessous et les trucs un peu pourris des Nations Unies. Et c'est eux qui avaient balancé tout ce qu'elle a pu dire sur les juifs, sur les homosexuels et sur diverses théories du complot, hein, parce que elle pense que c'est les sociétés occidentales qui dirigent le monde et qui complotent sur tout, les maladies, les machins, les trucs comme ça. Alors pour reciter le tweet, hein, le dernier qui a fait réagir et qui s'est fait virer, elle a dit « Les juifs concentrent leurs investissements dans l'industrie et les médias, c'est pourquoi ils gouvernent le monde dans un régime tyrannique ». Encore la suite, c'était les sionistes américains contrôlent les médias aux États-Unis et c'est ainsi qu'ils réussissent à atteindre partout leurs objectifs anti-islamiques. Voilà. Bon, c'est des propos racistes et antisémites basés sur sa religion, hein, puisque elle pense qu'il y a une guerre de religion entre l'islam et la religion juive. Bon. Elle est complètement à côté de sa plaque. Elle méritait ça. En fait, le Qatar devrait pas siéger dans ce genre de truc, mais ça, c'est un autre débat.
Alors, on va parler d'un autre sujet sur le racisme. Ce sont les Rohingyas qui ont été largement discriminés,
massacrés.
Il y a 3 plaintes qui ont été déposées au Royaume-Uni, aux États-Unis, par des représentants des Rohingyas. Il y a une procédure devant l'Organisation de coopération et de développement économique contre Meta. Meta, vous savez, c'est Facebook.
Oui.
Vous savez. Hein, vous tenez au courant quand même des changements de nom des multinationales. Alors, c'est Amnesty International qui donc a fait un petit rapport publié aujourd'hui qui est très intéressant, ma foi. Alors, je vais vous citer plusieurs phrases, hein, du rapport d'Amnesty International. Elles sont belles, vous allez voir. Les dangereux algorithmes de Meta qui détient Facebook. Facebook, excusez-moi, je bafouille. Je reprends. Les dangereux algorithmes de Meta qui détient Facebook, ainsi que la recherche effrénée du profit, ont considérablement contribué aux atrocités perpétrées par l'armée du Myanmar contre le peuple Rohingya en 2017. On parle donc de Birmanie. Hein.
Oui.
D'accord.
Le Myanmar, c'est c'est le nom officiel de la Birmanie, mais nous, on est resté birman.
Mais voilà.
Je sais pas pourquoi.
Bah,
on n'y arrive pas.
Oui.
Un atavisme, voilà, on a appris des trucs c'est à l'école, ça ressort.
Meta savait ou aurait dû savoir que les systèmes d'algorithmes de Facebook amplifiaient la propagation de contenus nocifs entre Rohingyas, je cite encore. Dans les mois et les années ayant précédé ces atrocités, les algorithmes de Facebook ont intensifié la vague de haine contre les Rohingyas, contribuant ainsi à la survenue de violences dans la vraie vie. Amnesty International poursuit. Pendant que l'armée du Myanmar commettait des crimes contre l'humanité, contre les Rohingyas, Meta tirait profit de cette caisse de résonance créée par ses algorithmes qui a induit une hausse vertigineuse du sentiment de haine. Meta doit rendre des comptes. Cette entreprise a à présent la responsabilité d'apporter réparation à toutes les personnes qui ont souffert de violences provoquées par ses agissements irresponsables. Amnesty estime aussi que les utilisateurs et utilisatrices de Facebook, qui ont participé donc à relayer des informations, ont permis à la plateforme de vendre d'autant plus de publicité ciblée.
Ouais, ça, donc là, on parle des Rohingyas, hein, mais il y a eu les mêmes affaires sur tous les trucs liés à l'extrême droite aux États-Unis. Les algorithmes, en fait, en propagation de fake news, non volontaire, en fait, mais par le système de conception de ces algorithmes, participent à la diffusion de ces choses.
Alors, soyons très clairs.
Les fake news ou des trucs contre des gens, contre les Rohingyas.
Les plaintes, elles sont pas juste sur les algorithmes. Elles sont pour dire à Facebook et à Meta, donc la maison, vous avez laissé faire. C'est ça, la plainte. Oui. C'est les plaintes. C'est vous avez laissé faire alors que vous étiez en train de voir ce qui se passait, mais vous avez fait du pognon, donc vous avez laissé faire parce que vous faisiez du pognon. C'est un enchaînement qui est simple. C'est faire de l'argent et laisser faire. Et c'est sur ces accusations qu'il y a des plaintes.
Oui, ils les connaissent, les faiblesses de leurs algorithmes. Donc effectivement, ils laissent faire parce que la pub rentre. Et voilà, plus ça se diffuse, plus ils font de pub et plus ils gagnent de l'argent. Et on peut rappeler, hein, les Rohingyas, c'est c'est un conflit de racisme religieux. Hein. On rappelle que ce sont les bouddhistes nationalistes au pouvoir en Birmanie, avec la coopération de Aung San Suu Kyi, hein, qui est en prison actuellement par la junte, mais qui, elle, a validé, a laissé faire le massacre, parce qu'elle aussi, elle est bouddhiste, elle aussi, elle a un côté nationaliste. Et les bouddhistes, le bouddhisme, souvent, les gens ont une image de religion un peu gentille et tout ça, c'est la même chose que les autres religions, elles détestent les autres, et donc là, elles détestaient les Rohingyas, qui n'ont pas la même religion, et donc c'est bien les bouddhistes au pouvoir en Birmanie qui ont fait ces massacres, ces déplacements de population et tout ça. C'est bien un conflit religieux au départ, et du racisme religieux.
Que quand on parle de massacre, on parle d'horreur, c'est-à-dire des villages entiers qui ont été brûlés, avec parfois les populations présentes, des gens qui ont été violentés, on parle de viol, il y a du déplacement de population comme tu le disais, des gens aujourd'hui qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu, et qui n'ont pas de nationalité, on a beau en parler souvent, globalement on fait rien quand même pour aujourd'hui améliorer la situation et surtout trouver une solution pour ces personnes, parce que là où on a des déplacés par la guerre, là on est au-delà de ça. Enfin je veux dire, les gens sont dans des camps.
Voilà.
On a quand même aujourd'hui, on est quand même pas loin
d'un génocide.
Demain d'un génocide. Ouais, je mets beaucoup de délicatesse dans ce propos, mais on est quand même pas loin de ça.
Oui, il y a une volonté.
Il y a une volonté quand même de destruction totale.
Forte, oui, voilà. Tout à fait.
Alors, on passe maintenant à de la technologie.
Et du contrôle des populations, ça, c'est la beauté du monde moderne. On va reparler de la campagne Technopolis. Il y a un site internet qui s'appelle Technopolis, vous cherchez. Vous avez pas mal d'infos qui avaient été lancées par la Quadrature du Net il y a 3 ans, en 2019. Et le but, c'était de documenter la progression de la vidéosurveillance automatisée, notamment en France. La campagne progresse. Alors, on en reparle, on va redonner du détail, puisque c'était il y a quelques jours, une plainte collective contre le ministre de l'Intérieur a été déposé auprès de la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés, par 15 248 personnes. Donc voilà, il y a 15 248 personnes en France qui s'estiment en droit de porter plainte contre le ministère de l'Intérieur pour la surveillance et le contrôle de la population, et notamment à travers ces systèmes de caméras de vidéosurveillance associés à de la reconnaissance faciale et du fichage de masse. Donc je rappelle que ce qui se passe alors depuis des années, hein, c'est que finalement, les discours politiques publics pour lutter contre ce qui peut être négatif dans la société, des gens qui agressent d'autres personnes, des gens qui volent, cette perception-là, qui sont des choses nées sur les terreaux de l'inégalité, de la pauvreté, des choses là comme ça. La seule solution proposée par l'État pour essayer d'aider quelque part ces personnes qui basculent du mauvais côté de la force, dirons-nous, eh ben c'est pas de les aider, c'est de les mettre en tôle, hein, puisque on est dans des solutions sécuritaires et seulement sécuritaires. Hein, on est dans le répressif et dans le sécuritaire. Et la vidéosurveillance, elle est porteuse de cette paresse de l'État, de cette paresse sociale, qui est de, on cherche pas à trouver des solutions, mais on tape sur ceux qui sortent de la norme, même s'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont coincés, et on peut expliquer leur situation, ils s'en foutent. Voilà, on est dans cette situation-là. Donc, il y a une volonté systématique de l'État de contrôler, de surveiller les populations. Ça, c'est sûr. On le sait maintenant, c'est mis en avant. Et c'est contre lequel se bat la Quadrature du Net. Alors, ils ne sont pas tout seuls, mais notamment quand ils ont monté ce site et tout ce qu'il y a derrière, qu'ils ont appelé la Technopolis. Donc, ils demandent à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire quelque chose. Alors, il se base sur un truc en droit, alors un truc, on peut utiliser d'autres mots, mais j'ai pas le langage législatif, qui dit que, normalement, une mesure doit être, surtout une mesure de répression, de contrôle des populations, doit être absolument nécessaire et doit être proportionnée au délit ou au crime qu'elle entend circonvenir. Or, la vidéosurveillance, surveiller massivement les populations, c'est compliqué de définir un crime qu'elle entend circonvenir, si ce n'est du vol à l'arraché, et ça ne mérite pas de contrôler l'ensemble de la population. Donc c'est très décalé, les mesures de contrôle des populations et la réalité des crimes et délits. On est essentiellement dans les délits qui peuvent être surveillés par ces systèmes de contrôle. Donc ils ont déposé 3 plaintes, Porté par ces 15 248 personnes, c'est le bilan de il y a 3-4 jours. La première plainte, c'est contre le fameux fichier TAJ. TAJ, ça veut dire traitement des antécédents judiciaires. Alors ça, c'est une énorme escroquerie. C'est toute personne qui un jour est concernée par une enquête, en témoin, alors bien sûr, on peut être suspect, mais innocenté, témoin ou se plaindre. Et ben, on est dans ce fichier-là. Il y a 20 millions de personnes en France qui sont dans ce fichier TAJ, c'est-à-dire une personne sur trois en France est fichée. Alors si vous enlevez les enfants, ça fait beaucoup plus qu'une sur trois. Hein. Et ce fichier est utilisé par la police, par la gendarmerie, et toutes les enquêtes, alors il y a eu plein d'enquêtes qui sont sorties dans les journaux ces dernières années, montrent que ce fichier, il est illégal sur plein de parties, parce qu'il y a des infos qui devraient être effacées et qui ne le sont pas, et puis il y a plein d'erreurs de rentrer dans le fichier. Et donc, on a un fichage d'une partie de la population, donc on va dire de un tiers de la population, avec des données qui sont totalement fausses pour certains et certaines, et dans l'illégalité, puisqu'il n'y a pas prescription, ils n'enlèvent pas les trucs, et voilà, le fichier est là, il existe. La deuxième plainte, c'est sur la vidéosurveillance généralisée. Donc, ils essayent de dire, voilà, bah, c'est pas proportionné à ce qu'on veut, c'est illégal en termes de disproportion, et c'est la deuxième plainte. Donc, ils essayent là-dessus, alors c'est plus difficile, notamment, ils essayent de faire interdire les logiciels algorithmiques de reconnaissance automatique des visages. Et la troisième plainte, elle est associée, finalement, à celle d'avant, c'est celle du fichier TESS. Le fichier TEST, TES, titre électronique sécurisé. C'est un fichier dans lequel il y a toutes les photos de celles et ceux qui ont un passeport et maintenant une carte d'identité. C'est-à-dire au moins la moitié de la population qui est fichée et qui va être utilisée de manière plus ou moins légale et souvent illégale par les forces de répression françaises à travers ces fameux algos de reconnaissance automatique. Donc ça, c'est la troisième plainte portée par la Quadrature du Net. Alors, on a tous l'espoir que ça aille plus loin et qu'il y ait que ça bouge. Alors, bien évidemment, si on est réaliste, on a peu de chances d'arriver à faire plier le système. Sauf que chaque fois qu'on met un grain de sable dans le système, c'est un bout de liberté qu'on sauve. Donc c'est l'intérêt de ce que fait la Quadrature du Net et d'autres contre le vidéo, contre les contrôles, on va dire, informatisés, vidéo à l'appui logiciel, algorithmique de reconnaissance automatique, contre tous ces outils de contrôle et de surveillance des populations. Chaque fois que il y a une action en justice, une action devant la CNIL, ça met un grain de sable dans la machine, ça peut la gripper, voire la faire reculer, et on y gagne un peu. Donc voilà, c'est même s'ils vont pas forcément gagner et faire condamner le ministre de l'Intérieur, parce que ça va jusqu'à faire condamner le ministre de l'Intérieur, alors ça c'est dans nos rêves les plus fous pour ce domaine-là, mais il y a d'autres domaines où ils pourraient aussi répondre devant la justice, mais là malheureusement la justice semble avoir abandonné en termes d'agression sexuelle par exemple, mais là il sera sûrement pas condamné, mais on peut ralentir, voire bloquer le système, et c'est vers ça dont il faut aller. Alors suite, deuxième information, et c'est un peu la suite de celle que j'avais fait la dernière fois sur la France qui aime bien donner des outils de contrôle des populations aux pays totalitaires. Donc là, on revient sur un rapport qui a été enfin donné aux parlementaires sur l'exportation des biens à double usage. Alors c'est quoi les biens à double usage? C'est le matériel qui peut avoir un usage classique, civil, et puis qui peut être détourné à des usages de contrôle des populations ou un usage militaire. Et là, le rapport a été remis aux parlementaires. Il n'a pas été rendu public, mais Disclose, le site d'enquête, là, s'est procuré le rapport. Ils l'ont même mis en ligne. Et on apprend plein de choses. On apprend que la France a accordé 4040 licences d'exportation de ces fameux biens à double usage, donc 9 milliards d'euros. Premier pour la Chine, deuxième pour l'Angleterre. Alors là, bon, et troisième pour la Russie. Donc deux pays totalitaires au milieu de ces trois premiers, c'est pas mal. Hein, on se rappelle que la Chine va pouvoir utiliser les technologies françaises de ces biens à double usage, surtout que c'est la catégorie 5 qui est la plus représentée. C'est quoi cette catégorie 5? C'est celle qui concerne les télécommunications et les sécurités de l'information, celle qui permet, qui concerne les logiciels, le matériel de contrôle et de surveillance des populations. Donc là, la France, alors ils donnent tous les chiffres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça va assez loin. On apprend apprend aussi que la France, sur ses biens à double usage, continue d'exporter des technologies en Russie, même encore en 2022 malgré la guerre, notamment sur des technologies nucléaires, puisqu'il y a un lien de compte d'échange avec Rosatom, notamment à travers General Electric qui vend des turbines. Donc voilà, il y a le discours officiel, les Russes c'est les méchants, ce qui sont vraiment les méchants, mais par contre, par derrière, le business continue. Business as usual, comme disent les anglo-saxons. Donc voilà, donc ce rapport, il est intéressant. Et ce qui nous montre ce rapport aussi, c'est qu'on ne sait pas comment sont données ces autorisations. Donc il y a une agence de l'État qui s'occupe de ces biens à double usage, mais alors il n'y a aucune transparence. Alors on est soi-disant une démocratie, mais là, ces fonctionnaires vont dire si oui ou non les entreprises peuvent vendre ces biens à double usage là à des pays plus ou moins sympathiques. Mais c'est eux qui décident, et il n'y a aucune transparence là-dessus. Et pourquoi il n'y a aucune transparence? Parce que tout de suite, ils disent « Stop !» C'est secret défense. Et ça, quand vous avez ce mot magique, vous êtes fonctionnaire, vous pouvez utiliser le tampon secret défense, vous avez gagné, il n'y a aucune transparence, la démocratie s'efface devant le secret défense. Donc voilà l'info donnée par Disclose, je vous laisse aller sur leur site, il y a beaucoup plus d'informations, il y a le rapport en entier, on se rend compte que voilà, la France continue de commercer avec des produits de contrôle ou de surveillance des populations avec des pays totalitaires, et c'est le cas de la Chine. Et d'ailleurs, on a une petite info, c'est ma dernière info sur la Chine, on apprend que la Chine, elle a créé des sortes de commissariats dans plein de pays. En fait, elle paye des fonctionnaires chinois qui vont. Alors, il y a trois agences à Paris. Alors, officiellement, c'est pas un commissariat chinois, c'est rien du tout, c'est pas officiel. Mais ça leur permet de contrôler les populations chinoises, dont une partie des opposants, parce qu'il y a des gens, des Chinois qui migrent ou qui vont ailleurs pour des raisons d'opposition et d'autres juste pour des raisons économiques. Et donc, la Chine. C'est interdit, bien évidemment, en termes internationaux. Mais la Chine a implanté ses agences dans différents pays, ces sortes de commissariats fantômes. Alors, il y a eu plein d'infos qui sont sorties. En Angleterre, The Telegraph, le journal, a découvert ces fameux postes de police non officiels à Londres, donc qui traquent les citoyens chinois, qui les font chanter. Enfin, il y a eu plein d'affaires. Il y a en Italie, c'était en Toscane, très exactement, le journal milanais qui s'appelle Il Foglio, qui a révélé aussi comment ça se passait. Alors ils se sont implantés à Prato en Toscane, parce que c'est là où il y a la deuxième plus grande communauté chinoise en Italie, et ces postes de police fantômes font leur travail d'espionnage, de contrôle des populations chinoises alors qu'ils sont en Italie. Il y a eu la même info qui est sortie au Canada, donc là c'est The Globe and Mail qui l'a révélé. Donc ils ont trouvé au moins trois bureaux, c'est-à-dire trois faux commissariats, enfin trois agences de police chinoises officieuses dans la région de Toronto. Là aussi ils étaient plutôt dans les zones à population chinoise, et il y a plein d'affaires qui sortent, et là on se rend compte que la Chine elle exporte son totalitarisme dans tous les pays. Donc on a dit à Paris il y en avait trois qui ont été repérés, et finalement il se passe pas grand chose. Voilà, on laisse la Chine faire. Alors, donc on a vu, le gouvernement français autorise la vente de systèmes de contrôle des populations qui vont peut-être contrôler d'ailleurs, servir à surveiller et contrôler les Chinois qui vivent en France, mais sans aucun souci. Et finalement, la presse a très peu relayé cette information de ces fameux commissariats fantômes ou de ces organismes fantômes de contrôle des populations. Il y a un certain nombre officiel qui circule, donc j'ai perdu le chiffre, mais c'est relativement important dans le monde. La Chine est un pays sympathique, n'est-ce pas? Voilà pour les technologies et contrôle des populations.
Alors, en cette journée de grève et de manifestation, on va faire un petit tour sur ce qui nous concerne, nous, les travailleurs et les travailleuses. On va partir de l'autre côté de la Manche, parce que The New Teacher, c'est le surnom que je donne à Liz Truss.
C'est qui Liz Truss?
Ah, c'est la nouvelle patronne.
Ah oui.
Avec plein de super idées de droite.
C'est la nouvelle Thatcher, un peu, elle.
Eh ben, The New Thatcher, excuse-moi.
C'était ça que t'avais dit. Putain, mais je comprends
pas. Tu n'écoutes pas bien mon superbe
anglais. Non, mais je suis pas anglophone.
Ouais, j'entends bien. Donc, tout ça pour vous dire qu'elle a des super idées et elle a annoncé un truc, mais alors qu'il fait paniquer même ses petits camarades. C'est tout pour vous dire. Elle a donc expliqué qu'elle allait faire une baisse d'impôts de près de 50 milliards d'euros. Bon, déjà. Hein,
politique de droite classique.
Pourquoi pas? Mais c'est très très clair, puisque ça ne va considérer que les très riches, voire les ultra riches. Alors déjà les riches, hein, puisqu'elle a décidé qu'elle allait faire disparaître une tranche d'impôt de plus de 170 000 euros par an quand tu gagnes. C'est pas mal quand même. Hein,
ouais,
voilà,
c'est bien, là.
C'est les riches. Donc ça veut dire que bah, ces gens-là, ils ne vont plus avoir une tranche à eux, ils vont être dans la tranche du tout. Mmh. Vous voyez? C'est vachement bien.
Ils vont payer moins, quoi.
Puis carrément moins, a priori. Mais en fait, toutes ces baisses ne vont concerner que des riches et les ultra-riches. En fait, ça ne concerne pas le reste de la population. Et puis surtout, elle n'a pas expliqué à ses petits camarades comment elle allait remplacer les 50 milliards d'euros manquants.
Elle enlèvera des aides sociales.
On enlève un petit peu quand même. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, plein de trucs. Alors déjà, les marchés financiers, ils se sont pétés la gueule depuis son annonce hier.
Ils n'étaient pas hauts.
Non. Et puis alors là, la livre sterling, pouf, elle s'est effondrée aussi. C'est-à-dire que ça fait paniquer un petit peu tout le monde. Du côté des banques anglaises, on a décidé de revoir un petit peu les offres de prêts. C'est-à-dire pas de prêts, hein, même aux entreprises. Ça veut dire pas d'investissement. Ce qui est pas bien dans le cadre du capitalisme. Je vous le rappelle, hein, le capitalisme s'entretient. S'il n'y a pas d'investissement, tout ça, ça foire. Donc, ça pose un petit problème, hein, surtout dans la situation actuelle. Et même le FMI, le Fonds monétaire international, s'inquiète et a demandé à The New Teacher de bien vouloir revoir son petit plan pourri, parce que ça risque de poser quelques coinçages en termes d'économie, de budget. Là, dans les mois qui viennent, mais ça va être très très rapide, a priori, hein, les problèmes. Donc voilà, tout le monde est contre elle. Ça m'a fait rire, parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est là.
Alors, sauf les riches, du coup.
Oui, mais... Oui. Mais les riches arrivent toujours à se débrouiller, à retomber, même quand après, des systèmes peuvent les empêcher. Quand t'as beaucoup d'argent, de toute façon, tu te débrouilles toujours. Alors, on va parler d'une décision que nous avons appris lundi, mais qui n'est pas... récente dans sa prise de décision, mais en tout cas le rendu public est date de lundi. C'est une décision du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe, vous suivez jusque-là, qui attaque la France, en tout cas, attaque une décision du gouvernement Macron et considère que la France viole la charte sociale européenne en plafonnant les indemnités aux prud'hommes en cas de licenciement abusif. C'est ce qu'on a appris lundi, ça a été rendu public. Alors, vous savez, c'est ces fameux barèmes Macron, vous vous souvenez?
Ou quand tu gagnes au prud'homme, eh ben l'entreprise elle te donne moins que ce qu'elle donne
avant.
Alors
oui, ça, ce barème Macron, il a supprimé le plancher de 6 mois minimum d'indemnité pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté et a plafonné entre 1 et 20 mois de salaire brut en fonction de l'ancienneté, des dommages, des intérêts en cas de licenciement abusif. C'est-à-dire que là où avant, bah il y avait vous aviez un petit cahier des charges, une petite grille, et puis vous pouviez pousser. Là, le barème Macron limitait en fait votre droit en tant que salarié à réclamer votre dû. Globalement, c'était ça. Donc, je vous rappelle que c'est les ordonnances travail adoptées en 2017. C'est CGTFO qui avait été voir ce Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe pour critiquer donc ce barème Macron. Alors, le Comité considère que le plafonnement des dommages et intérêts accordés par la justice aux salariés en cas de licenciement injustice constitue une violation de l'article 24 de la Charte sociale européenne que la France a signée, hein, et que ça remet en question le droit à la protection en cas de licenciement, et puis que ça pourrait faciliter la possibilité des patrons de te licencier plus facilement. Ça, c'est bien ce qu'on avait critiqué à l'époque en 2017, quand M. Macron avait mis en place ce barème. Alors, si je dis que la critique, tout ça, si j'emploie ce terme, cette terminologie et ce vocabulaire, c'est tout simplement que le comité, il n'a pas vraiment de pouvoir. Hein, il informe l'État français que c'est pas bien. Globalement, je la fais courte, mais c'est comme ça. D'autant plus que en France, le Conseil constitutionnel, c'est en 2008, et la Cour de cassation, en mai dernier, en mai 2022, ont validé ce barème Macron. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que bon, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe a beau dire, c'est pas bien. Si jamais l'État français, le gouvernement là de Monsieur Macron, il dit pas, ok, oh bah si c'est pas bien, on va revenir dessus, et ben il se passera rien, puisque du coup,
c'est consultatif.
Bah ouais. Voilà. Donc, mais c'était bien. Merci à la CGTFO d'avoir quand même été porté, d'avoir fait cette démarche, parce que ça veut dire que peut-être qu'on peut s'en servir quand même syndicalement pour rappeler qu'il y a de la merde. Et puis, je voulais juste avoir une pensée pour les 2600 personnes qui ont définitivement perdu leur emploi. Ce sont les travailleuses, essentiellement, et les travailleurs de Camaïeu, 514 magasins. Donc, après une mise en redressement, on a donc appris que la liquidation judiciaire était prononcée, c'était hier, c'est définitif. Là, c'est-à-dire qu'en quelques jours, hein, tout ferme, les stocks sont vidés d'ici la fin de la semaine, enfin voilà, c'est terminé. Encore une entreprise du secteur du textile qui s'en sort pas bien, beaucoup certainement dû à une mauvaise gestion et à une mauvaise anticipation aussi des modifications hein, du secteur au niveau des ventes, à la fois les ventes sur internet, mais aussi la mode, enfin toutes ces choses-là. Donc on a quand même aujourd'hui 2600 personnes qui sont à la rue en termes d'emploi. Voilà, c'était juste pour avoir un mot de solidarité avec ces gens. Et puis, je vais passer à un dernier sujet qui n'a plus rien à voir avec la lutte de classe. Le gouvernement va lancer un grand débat de 4 semaines rassemblant les industriels du textile, les distributeurs de textile, les associations de consommateurs et consommatrices, les fédérations du recyclage, des éco-organismes et des ONG de protection des travailleurs et des travailleuses sur ce secteur. Pour savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que ça pollue le textile, il paraît.
Ouais, ça pollue pas qu'un peu. Hein. Les textiles à base de pétrole synthétique, c'est une catastrophe. Hein. C'est une des principales sources de ces microplastiques qui se retrouvent dans la mer. Quant au reste du textile, la partie respectueuse de l'environnement doit représenter 0,02%, hein, parce qu'il y a quasiment rien de bio. Donc tout le reste est destructeur de la planète. Le coton, on rappelle, hein, c'est une plante qui, quand elle est utilisée, enfin cultivée industriellement, nécessite énormément de produits dangereux et nocif pour la planète.
Alors on sait aussi qu'il faut beaucoup d'eau hein, pour produire tout le textile, hein, tous les vêtements qu'on met.
Alors qu'il y a des alternatives, hein, le lin, le chanvre, des choses comme ça.
Et mais on sait que de toute façon, tant qu'on n'arrêtera pas, en fait c'était un peu ma conclusion, mais je vais le dire tout de suite, tant qu'on n'arrêtera pas de surconsommer et donc il y a un arrêt de la surproduction, on continuera à produire, hein, même en lin et en chanvre, on va continuer à produire et donc...
Trop produire.
Alors tout ça va se passer sous l'égide de Bérangère Couillard, qui est secrétaire d'État chargée de l'écologie. Je pense que vous ne la connaissiez pas. Et bien maintenant, Bérangère, vous saurez ce qu'elle fait et qui elle est. Donc là, l'idée de ce gouvernement, c'est de rendre la filière plus vertueuse sur le plan écologique. Hein, vous y croyez? Vous y croyez que ça va se marcher?
Non.
Voilà, c'est d'ici 2027, il faudrait qu'il y ait 80% du textile usagé qui soit recyclé. Le problème, c'est qu'en France, on ne sait pas bien faire ça. Et comme tu le disais, il y a le recyclage du coton, mais il y a surtout le recyclage des vêtements en polyester et synthétique. Et alors ça, c'est très compliqué.
Parce que le coton, on sait faire, on peut réutiliser les fibres, voilà. On peut en faire du papier. Enfin, il y a une filière qui existe hein, pour le coton. Mais par contre, effectivement, tous les tissus synthétiques, c'est-à-dire à base de pétrole, c'est compliqué.
Donc là, l'idée, c'est d'avoir ces gens qui vont se réunir pendant 4 semaines, d'avoir un projet d'arrêté début novembre pour une application dès 2023, comme les retraites. Oui, c'est à peu près le même calendrier. Donc là, il faudrait qu'il y ait un système de bonus financier qui soit versé aux entreprises dont les produits textiles sont durables. Alors, il y a déjà un système d'éco-taxe, si vous voulez, c'est une éco-contribution. Mais en fait, cette éco-contribution, globalement, pour l'instant, les industriels, ils préfèrent payer que de se faire chier. M'excusez pour le vocabulaire, mais c'est ça, c'est simple. L'idée, là, c'est qu'en fait, il faudrait un malus, carrément. Parce que là, l'idée, c'est toujours de vouloir récompenser ceux et celles qui seraient les bons élèves, qui seraient bien.
Ils appellent ça l'écologie punitive et c'est mal.
Mais en fait, il y a quand même plein de gens qui s'agacent de ce bonus et qui aimeraient bien qu'une bonne fois pour toutes, on mette des malus très forts et très importants. C'est-à-dire que cette éco-contribution, qui nous on est au courant de rien, consommateurs et consommatrices, hein, de cette affaire, mais en tout cas cette taxe, elle soit importante et qu'elle sensibilise un petit peu quand même les industriels du textile à vouloir soit produire moins, soit mieux, soit plus écolo. Le moins, je pense que c'est pas gagné parce que là on parle de profit. Écolo et mieux, bah ça peut-être que c'est en discussion, mais tant que on taxe pas plus fortement et qu'il y ait pas du malus. On va faire réunir des gens pendant 4 semaines, peut-être pour améliorer la filière du recyclage, ça c'est possible, peut-être ce genre de discussion.
Le problème du gouvernement, c'est leur incompétence. Quand on fait l'analyse du cycle de vie d'un produit, il y a 5 étapes. Il y a la fabrication, ça on n'en parle quasiment pas, justement, d'où on prend la matière première. Il y a tout ce qui est transport dans les différentes phases, c'est pareil, on n'en parle pas, hein, de la fabrication au Bangladesh, etc. Il y a la partie utilisation, alors là pour le textile, il y a peu d'impact, sauf pour le textile synthétique qui, à chaque lavage, rejette des microplastiques. Je ne sais plus où j'en suis. Et il y a surtout la partie fin de vie. Et ils s'intéressent qu'à la partie fin de vie, c'est-à-dire ils trouvent du recyclage. Et en fait, ils oublient tout le reste avant. Or, un produit, ça a un impact sur tous ces domaines-là. Et c'est tous ces domaines-là qu'il faut améliorer. Mais ça, il faudrait qu'ils aient des compétences.
Alors, ils nous prédisent que non, ils veulent justement pousser l'industriel à être plus écolo dans la production. Sauf qu'encore une fois, tout ça c'est bien gentil, mais si jamais tu n'as pas des règles et des lois qui t'obligent, oui, il ne se passera rien. Si tu ne punis pas les industriels qui font de la merde, il ne se passera rien.
Mais on l'a vu, il y a eu des tentatives de lancer du coton bio, de redynamiser le lin ou le chanvre. Et en fait, il y a eu des pics comme ça où on revoyait des vêtements plus respectueux. Et puis ça n'a pas duré longtemps parce que économiquement, quand tu vends ton t-shirt 4 fois le prix de celui qui a été fabriqué au Bangladesh avec du coton qui vient d'Ouzbékistan, tu peux pas gagner. Ouais, donc c'est ça le problème.
Pour rappeler que quand vous mettez dans des bennes pour recyclage, ça ne marche pas. Hein. Ça part, je ne sais pas où, dans d'autres pays, en particulier en Afrique. Le recyclage, il ne se fait pas ici, il n'est pas réel. Et on sait qu'il y a 400 000 tonnes qui partent directement à la poubelle, qui n'est pas retraitée. Donc de toute façon, même quand on met, nous, dans un truc de recyclage, en fait, déjà, on pense parfois que d'autres personnes vont pouvoir utiliser nos vêtements en bon état. Ce n'est pas forcément le cas. Voilà, il faut le dire. Et après, en plus de ça, le recyclage, il se fait pas ici. Donc, en fait, pour l'instant, il se fait rarement ici. Les chiffres sont pas très bons quand même. Donc, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. 4 semaines risquent de pas être suffisant, comme la retraite, en fait.
Ouais, mais bon.
Peut-être un 49.3 pour le textile, je sais pas.
Ouais, les 49.3, dans 30 secondes, il est 20h. Donc, on va... Enfin, 30 secondes, j'ai dit un chiffre au hasard. Hein, mais il va être 20h d'ici quelques microsecondes. On se retrouvera la semaine prochaine.
Bien évidemment.
19-20h pour le Kenya Info du jeudi, et puis pour le Canu Info du lundi, c'est le lundi, le Canu Info du mardi, c'est mardi, le Canu Info du mercredi, c'est mercredi, et le Canu Info de demain, c'est demain, enfin, c'est-à-dire vendredi. Voilà, vous avez tout, une équipe, des équipes différentes.
Vous avez donc appris les jours de la semaine ce soir, ouais. Vous avez au moins appris un truc. En tout cas, vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes, à la semaine prochaine.
Bye bye.
Ciao.